Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier podcast de Tenir Compte, la nouvelle série éditoriale du CERCES. Le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, une plateforme de connaissances, de formation et d'action dédiée à la transformation des entreprises et des organisations par les comptabilités écologiques. Avec Tenir Compte, nous voulons éclairer et outiller cette transformation en replaçant pleinement les enjeux environnementaux et sociaux au cœur de la décision économique. Je suis Catherine Crocos-Leroy, administratrice du CERCES, et aujourd'hui nous ouvrons cette collection avec un épisode au titre programmatique « Garder le cap ou le reporting de durabilité comme moteur de transformation continue ». En effet, nous traversons un moment de forte tension. Simplification des normes, remise en cause des régulations environnementales, tensions énergétiques et géopolitiques, et plus largement, une forme d'incertitude stratégique pour les entreprises. Dans ce contexte, nous avons choisi de partir d'un rapport de la plateforme RSE, qui est sous l'égide du Haut-Commissariat à la stratégie au plan, et qui s'intitule « Entreprise durable, le déploiement du reporting de durabilité, un des vecteurs de transformation de l'entreprise ». Cette affirmation tient-elle face aux évolutions et aux incertitudes politiques et géopolitiques actuelles? Et surtout, comment garder le cap de la transformation? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux personnalités de référence sur ces sujets et respectivement animatrices et co-rapporteurs du rapport, Bettina Laville et Sylvie Bénard. Bonjour Bettina Laville.
Bonjour et bravo pour le titre. Tenir compte, vous savez, c'est ce qu'on oublie toujours. Dans la convention d'Aarhus sur la convention sur la démocratie environnementale. Et la convention d'Aarhus dit qu'il faut tenir compte du public. Donc, bravo.
Bettina Laville, vous êtes conseillère d'État maintenant honoraire avec une expérience nationale et internationale dans plusieurs cabinets ministériels et spécialiste du développement durable et de la RSE. Vous avez été à l'origine des dispositions sur le reporting de la loi NRE de 2001. En matière d'engagement, vous êtes fondatrice du comité 21 que vous avez présidé. Vous êtes actuellement vice-présidente de la plateforme RSE et présidente de l'Institut d'études avancées, un institut de recherche internationale et un lieu extraordinaire qui nous accueille aujourd'hui et que nous remercions. J'ajoute que vous avez coécrit il y a 15 ans le premier manuel Dalloz sur le développement durable et vous porterez aujourd'hui un regard à la fois stratégique, politique et historique sur les enjeux de durabilité.
C'est vrai.
À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvie Bénard. Bonjour.
Bonjour Catherine, bonjour Bettina, bonjour à toutes et à tous.
Vous avez été, Sylvie Bénard, ingénieure agronome pendant plus de 25 ans et directrice environnement de LVMH. Vous êtes aujourd'hui présidente et fondatrice de la Dame à la Licorne et très active dans plusieurs organisations et associations liées à l'environnement. Vous êtes présidente de Humanité et Biodiversité et administratrice du CERCES. Vous apporterez pour votre part, une vision et une expérience très concrète de la transformation en entreprise. Merci beaucoup et infiniment à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui.
Depuis un an, Omnibus est devenu un mode de gouvernement européen, un mot valise pour rouvrir, texte après texte, des lois pourtant adoptées récemment, finances durables, devoirs de vigilance des entreprises, climat, santé, alimentation, à chaque fois le même raisonnement, simplifié pour accélérer et alléger. Ce qui est présenté comme une opération technique est en réalité un choix politique, celui de considérer que les règles environnementales, sociales ou sanitaires sont devenues un problème à résoudre plutôt qu'une protection à assurer.
Pour commencer un premier tour de table, Bettina Laville, Sylvie Bénard, si vous deviez qualifier le moment que nous vivons aujourd'hui en un mot, quel serait-il, Sylvie Bénard ?
Eh bien, je choisirais le mot chinois Weiji, que j'espère bien prononcer, qui signifie crise et qui est composé de deux idéogrammes, l'un signifiant le danger et l'autre signifiant l'opportunité.
Merci, Bettina.
Alors, je vais rester au français. D'abord, la crise, ça vient effectivement du mot grec, ça tout le monde le sait. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est comment on fait avec la crise. Et les mots sont multiples. On dit transition, on dit bouleversement, on dit transformation. Edgar Morin dit métamorphose. Moi, j'aime bien le titre, qui est d'ailleurs celui du nouveau livre d'une scientifique qui est Amy Dahan, qui est Mutation.
Bettina, je vous propose de commencer avec vous par mettre cette actualité en perspective, justement, avec une question centrale, rupture ou nouveaux cycles. En effet, dans le rapport, vous montrez que les politiques environnementales avancent par cycles. Est-ce que les évolutions actuelles, omnibus, débat autour de la CSRD, de la double matérialité, dont nous allons reparler, confirment cette lecture ou marquent-elles un tournant plus profond, selon vous ?
C'est un vrai tournant. Alors, et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a rupture en ce sens que depuis la loi NRE, avec des hauts et des bas, le reporting environnemental et social, ou sociétal, comme on dit, a toujours avancé. C'est-à-dire que vous avez eu un certain nombre de textes européens, la France a été en avance, puisque c'est la France qui a fait la première loi. Ensuite, l'Europe a suivi, il y a eu des allers-retours entre les différents pays européens et la Commission, mais ça a toujours été des avancées en ce sens que cela a été dans une direction plus de normes, mais pas au sens pesant, c'est-à-dire plus d'encadrement, c'est-à-dire plus de mesures, voilà. Et deuxièmement, on est passé juste avant 2020 à certaines contraintes, c'est-à-dire que dans une première époque, les rapports qui étaient faits, les rapports, comme on disait, les rapports RSE, étaient d'abord au début, faut bien peu le dire, alors je dirais pas greenwashing, mais enfin, où les entreprises étaient très contentes de dire les efforts qu'elles faisaient, qui étaient d'ailleurs véritables, mais qui n'étaient absolument ni mesurés, ni comparés. Peu à peu, on a mis un certain nombre de normes qui fait que les entreprises les mesurent à l'intérieur de leur propre fonctionnement et les unes par rapport aux autres. Et on est arrivé à la CSRD, l'actuelle présidente de la Commission, avec évidemment, parce que contrairement à ce qu'on dit souvent, la Commission est un organe démocratique qui est soumise au Parlement, on a eu une majorité qui était une majorité plus environnementale, plus allante sur tous ces plans, et la CSRD a été votée, mais avec plein d'autres textes, hein, avec des textes sur le climat, avec des textes sur le plastique, avec une loi extrêmement combattue d'ailleurs par beaucoup, j'y reviendrai, sur l'agriculture, toutes sortes de textes. Pourquoi je dis j'y reviendrai ? Parce que il ne faut pas croire qu'il y a eu tout d'un coup du blanc, c'est-à-dire la première mandature d'Anne van der Leyden, et ensuite tout d'un coup du noir. C'est-à-dire que à chaque fois, les forces, alors on peut dire conservatrices, ou en tout cas, moi je dirais les forces autour de Business Europe, hein, je veux dire, à l'intérieur, qui gravitent autour de la Commission, se sont opposées à ces évolutions, ou en tout cas ont combattu pour les amoindrir. Mais à l'arraché, les textes ont été donc acceptés et promus. Puis, Parlement, élection, voilà, démocratie, tout simplement, élection parlementaire et donc, évidemment, nouvelle majorité. Sauf que ça, il y a eu quatre facteurs qui, en fait, ont fait que tout ça a été, je vais reprendre votre mot, une rupture. Le premier facteur, c'est le rapport Draghi, c'est-à-dire que juste au début de la mandature, la commission l'avait demandé, le rapport de l'ancien président de la Banque centrale italienne, qui a dit « Attention, nous perdons en compétitivité, mais nous pouvons avoir plus de combativité et de compétitivité avec deux faits. Le premier, c'est moins de normes, et le deuxième, c'est plus de décarbonation. » En même temps, nous avons eu l'arrivée triomphale de Monsieur Trump aux États-Unis. Donc, vous savez que le premier acte a été de sortir de l'accord de Paris et de flinguer, pardonnez-moi cette expression purement juridique, toutes les normes, en l'occurrence, environnementales, au point d'ailleurs de nommer à l'IPE, c'est-à-dire à l'Agence de l'environnement américaine, un climato-sceptique notoire. Donc, si les États-Unis enlèvent toutes les normes, ils peuvent vendre n'importe quoi, et nous, avec nos normes, nous nous entravons. Donc, manifestement, il y a eu Le discours du patronat et aussi des politiques. Hein, je veux dire, le commissaire français européen a soutenu de manière vive le mouvement. Troisièmement, il y a aussi eu quelque chose de très important, c'est que la France était en avance. Donc, il y a quelque chose d'essentiel dans cette affaire, c'est que les entreprises visées par la CSRD, c'est-à-dire les plus grandes, en fait, pour aller vite, on viendra sur les détails, avaient déjà été en train de faire un premier exercice. Et donc, en fait, la France avait une avance considérable et comme vous savez, les avances de la France ne plaisent pas trop à l'Allemagne, surtout que l'Allemagne était non seulement en retard sur la transcription, mais très, très, très réticente à cette transcription. Donc, si vous voulez, il y a eu un porte-à-faux et la France a souffert, entre guillemets. Moi, je ne pense pas. Je pense que la France va garder son avantage là-dessus. Enfin, en tout cas, dans le débat politique. Donc, ça, c'est les trois faits très importants. Et quatrièmement, il y a eu aussi, il faut quand même bien le dire, le débat français sur trop de normes. Si on enlève des normes, tout va aller mieux. Et donc, ça a suivi une espèce de vent politique français.
Néanmoins, Bettina, le rapport insiste aussi sur le fait que le reporting revient toujours au centre du jeu. Donc, pour quelle raison et est-ce qu'il est devenu aujourd'hui un facteur de stabilité dans un contexte instable?
Alors, c'est très, très subtil. Premièrement, le reporting n'a pas du tout été aboli, Dieu merci. Et en particulier, le concept fondamental de double matérialité, ça on l'explique, je crois, j'espère, bien dans le rapport, est resté le concept clé. Il a été attaqué, hein. Mais là, les gens véritablement sont restés là-dessus extrêmement fermes. Et donc ça, c'est fondamental. Deuxièmement, vous pensez bien que les grandes entreprises, quand même, donnent le là, avec l'effort qu'elles avaient fait dans cette première année d'application, l'argent qu'elles avaient dépensé pour se doter des meilleurs spécialistes et des meilleurs instruments de mesure. Et d'autre part, le changement de gouvernance est quelque chose de fondamental, mais en l'occurrence, Sylvie est beaucoup plus connaisseuse que moi de cette affaire. La prise en compte par les DAF, les directions des affaires financières, de tout le mouvement de reporting. Parce que vous savez, tant que c'est la direction du développement durable, même si elles ont pris de l'importance, faut bien dire que ça reste non pas marginal, parce que quand même il y a beaucoup de présidents et beaucoup de COMEX qui s'occupent de tout ça, mais ça ne reste pas fondamental. Alors le jour où ça devient dans les mains des directions des affaires financières, évidemment c'est très important. Donc le mouvement est lancé, et je pense que le mouvement dans les grandes entreprises continue. Je crois que le chiffre moyen qu'on donne toujours, c'est que 90% des entreprises ne sont plus assujetties, parce qu'en fait, on a retardé l'application, continuent de faire comme avant. Bon, voilà. Elles ne font pas plus, du coup. Hein. Elles auraient pu faire plus, mais elles font comme avant. Et que, d'autre part, ça se... comment dirais-je, capillarise à toutes les entreprises.
Nous y reviendrons effectivement avec Sylvie dans quelques minutes.
Aujourd'hui, je crois plutôt aux centrales nucléaires qui vont nous fournir l'électricité qu'aux bateaux qui se promènent avec du pétrole sans savoir s'ils vont traverser les problèmes et les difficultés.
Les ventes de véhicules électriques neufs ont bondi en France de 70% en avril, comparé au même mois l'an passé. Aujourd'hui, près d'une voiture vendue sur trois est électrique. Plus les prix des carburants à la pompe augmentent, plus les ventes de véhicules électriques accélèrent.
Bettina Laville, le rapport établit un lien entre durabilité et compétitivité. Est-ce que selon vous, comme on entend, la crise énergétique actuelle fragilise la transition écologique ou est-ce qu'au contraire, elle agit comme un accélérateur?
Alors, là aussi, la réponse est ambiguë. Moi, j'ai une conviction et je vous la dirai. Mais il faut quand même être lucide. Comme je l'ai dit, ça a été une rupture et c'est un frein, cette affaire de révision de la CSRD. C'est un frein pour trois raisons principales. La première, c'est qu'il y a une espèce d'ambiance en ce moment en général que l'environnement, c'est secondaire. Ça, merci Donald Trump, c'est évident qu'il y a une ambiance là-dessus. La deuxième chose, c'est que la crise économique, pour reprendre le mot du départ, crise, et d'autre part la crise géopolitique, entraîne des bouleversements, et en particulier des bouleversements commerciaux dans les entreprises, extrêmement importants. Et même si, et certains chefs d'entreprise le sont, on est attaché au moyen terme et au long terme dans sa stratégie, il est évident que les résultats trimestriels, ça compte aussi. Donc, si vous voulez, manifestement, là, il y a une inversion des priorités, comme dans toute crise d'ailleurs, on est quand même dans un climat de guerre, même si elle n'est pas sur notre sol. Et encore, elle est de manière hybride sur notre sol. Donc, si vous voulez, on a évidemment des préoccupations un peu différentes. La troisième raison, et ça me paraît vraiment important, c'est que le climat général est, et ça, c'est peut-être quand même le reproche qu'on devait faire à la CSRD, le détail des normes, ça je crois que tout le monde était d'accord, était quand même peut-être un peu exagéré. Voilà. Mais en même temps, il y a des pans entiers qui ont été supprimés. Ça c'est pour le négatif. Pour le positif, trois choses aussi. La première chose, c'est que les investisseurs se moquent un petit peu de tout ça. C'est-à-dire que ils continuent de demander des informations assez fourni aux entreprises pour décider les investissements. Et donc ça, je crois que c'est un signe tout à fait important, d'autant plus que quand vous êtes chef d'entreprise, c'est les investissements qui vous intéressent, et donc on écoute les investisseurs. Ça, c'est le premier point qui est très positif. Le deuxième point, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que les grandes entreprises continuent, même sans y être assujetties, et d'autres entreprises sont quand même beaucoup moins pressées, mais quand même se préparent. Le mouvement de préparation continue avec effectivement la VSME dont on a peut-être parlé tout à l'heure, et donc c'est facultatif entre guillemets, mais ils s'y préparent. Puis la troisième chose, vous savez, je vais vous dire, tout d'un coup, on parle plus d'environnement parce qu'on ne parle que malheureusement de guerre en Iran. Et puis tout d'un coup, vous avez une canicule comme en ce moment aujourd'hui où nous parlons et tout le monde se met à parler de carbone. Et puis vous allez avoir des incendies aux États-Unis ou en Gironde pour prendre de, etc. Et puis vous allez avoir des inondations massives comme on a eu nous en janvier. Mais ne parlons pas des inondations dans les pays d'Asie du Sud-Est, et que tout le monde va tous les entrepreneurs, toutes les entreprises vont avoir leur outil de travail touché, et évidemment, au moment où ils vont le reconstruire, vont se poser ce problème-là. Et donc, en fait, c'est un mouvement contradictoire, un peu octant, mais qui continue d'avancer.
Merci pour cette analyse. Ce qui ressort très fortement de ce premier échange, Bettina Ville, c'est que la transition n'avance jamais de manière parfaitement linéaire. Mais malgré les tensions, les entreprises continuent à arbitrer, à anticiper et à piloter. Et le reporting de durabilité n'est pas un simple outil de transparence, c'est un outil de pilotage des risques dans un monde instable et un facteur de continuité de l'activité. Et c'est justement ce que nous allons observer maintenant avec vous, Sylvie Bénard. Le rapport insiste sur le rôle clé du reporting comme outil de pilotage. Est-ce que, selon vous, cette transformation est déjà réellement à l'œuvre aujourd'hui, ou est-ce que l'on est encore dans une phase qu'on pourrait qualifier d'appropriation, voire de mise en conformité progressive?
Eh bien, pour reprendre le mot de Bettina de mutation, il y a effectivement une mutation en œuvre, mais les positionnements des entreprises est encore varié avec les deux positions dont vous venez de parler. Je dirais que d'abord, on a les entreprises qui vont être dites conformistes, celles encore majoritaires. C'est celles qui vont considérer que le reporting, la CSRD, c'est une série de cases à cocher. Elles vont se concentrer sur la collecte des données, et les entreprises, et Bettina l'a bien souligné tout à l'heure, sont souvent en silo, avec d'un côté la RSE, de l'autre côté la finance, et qui quelquefois ne se parlent pas. Résultat, c'est souvent un rapport qui va être coûteux, point extrêmement important pour les entreprises, qui va être difficile à comprendre, quasiment incomparable avec une autre entreprise, et qui va surtout être totalement inutile pour la décision. Ensuite, on a les éclairés. Alors, c'est une On va dire que ce sont des entreprises qui sont en forte croissance. C'est le nombre est en forte croissance. Elles ont compris que le reporting, ben, ça devait être un outil de dialogue avec les parties prenantes. Exemple, une PME qui va utiliser son analyse de double matérialité pour négocier avec ses banques. Comme tu le disais, Bettina, effectivement, les investisseurs posent des questions, en particulier sur les questions liées à des risques environnementaux et des risques sociaux. Du coup, elle va réduire son risque climatique et elle va obtenir des taux préférentiels. Là, le reporting devient un levier de compétitivité. Troisième type d'entreprise, les pionnières, celles qui vont intégrer le reporting dans leur pilotage stratégique. Elles vont au-delà de la mise en conformité et en font un outil de décision. Alors, où en est-on en matière de chiffres? Dans le rapport, nous citons que 80% environ des entreprises sont encore dans la phase 1 ou la phase 2. Mais la bascule est en marche, puisque déjà la CSRD force à structurer les données. Et donc, bah, une fois que vous avez structuré les données, autant les utiliser. Et c'est là que le vrai pilotage va commencer. Comment se passe le déclic? Eh bien, c'est le moment où les dirigeants, grâce à ce travail, vont réaliser que de ne pas agir beaucoup plus cher à l'arrivée que d'agir. Exemple, aujourd'hui, ces entreprises qui sont en train de découvrir à quel point elles dépendent du prix du pétrole, du prix du transport, du prix du plastique. Et elles n'avaient réfléchi à aucune stratégie en réponse à ces crises.
Derrière cette transformation du reporting, il y a aussi une notion qui est devenue absolument centrale dans les débats actuels, qui est la notion de double matérialité.
Dans le contexte de la comptabilité durable, un des grands enjeux, c'est comment est-ce qu'on va donc représenter la durabilité. Donc matérialité, ça veut dire ce qui est pertinent. Donc matérialité financière, c'est considérer que les informations socio-environnementales pertinentes, c'est ce qui reflète des enjeux de performance financière. Donc c'est l'impact sur l'entreprise et la performance financière. La matérialité à impact, c'est dire on va intégrer dans la comptabilité ce qui permet de montrer les impacts de l'entreprise sur l'environnement. Donc vraiment l'impact sur l'environnement social et d'ailleurs social et naturel. Et la double matérialité, c'est quand on prend tout en compte.
La double matérialité dont nous venons d'écouter la définition donnée par Alexandre Rombaud structure la CSRD. Elle est au cœur même de cette transformation et pourtant elle cristallise aujourd'hui beaucoup de débats. Sylvie Bénard, pourquoi ces débats, selon vous, alors même que d'autres zones du monde, comme la Chine, et on le sait assez peu, s'en emparent?
Parce qu'elles dérangent, parce que c'est, et en même temps, faut pas oublier que derrière tout ça, c'est des humains, et elles bousculent les habitudes, et on n'aime pas être bousculé dans ses habitudes. D'abord, c'est un changement de paradigme. Pendant des décennies, on a évalué la performance d'une entreprise uniquement sur sa rentabilité financière. Avec la double matérialité, on va intégrer des critères extra-financiers dans la décision. Et cela va impliquer de revoir les modèles économiques, et ça peut faire peur. Mais derrière, il y a une question de fond. Est-ce qu'on veut une économie qui protège ou une économie qui exploite? La double matérialité, c'est l'outil qui va permettre de concilier les deux. Sans elle, on va revenir à une vision extrêmement court-termiste et on risque de manquer le virage de la transition ou de la mutation. Et pourquoi est-ce que la Chine s'en empare? Ben, parce qu'elle a compris que la durabilité, c'est un levier de puissance économique. Exemple, ben, les batteries chinoises, les voitures chinoises, le solaire chinois, etc., etc.
Et pour cela, Trump fait un cadeau extraordinaire.
Absolument.
À la Chine.
Tout à fait. Et la Chine n'a pas entendu l'Europe pour intégrer les critères ESG dans leur stratégie. Alors, attention. Je dis critères ESG, en réalité, c'est les critères environnementaux. Il est bien sûr qu'en matière de démocratie et d'enjeux sociaux, je rentre pas dans le débat, mais c'est surtout les enjeux environnementaux, effectivement, que la Chine a mis en place. En fait, s'il y a une leçon à tirer, c'est que si on affaiblit la double matérialité, on ne fait que reculer sur l'environnement, et du coup, on va reculer sur l'innovation et sur la souveraineté.
Quand on parle de la double matérialité avec certains dirigeants, vous l'évoquiez, on perçoit parfois l'idée d'une contrainte administrative supplémentaire. Comment vous leur faites comprendre qu'il s'agit en réalité d'un véritable outil de décision?
On ne mesure pas en fait suffisamment ce qu'on perdrait en affaiblissant le modèle de la double matérialité. Et c'est précisément le problème. On sous-estime les coûts de l'inaction, qui sont bien plus élevés que ceux de l'action. Prenons un exemple concret. une entreprise qui ignore que 40% de ses matières premières viennent d'un seul fournisseur. Quand ce fournisseur ferme à cause d'une inondation, un risque climatique non anticipé, l'entreprise a perdu 120 millions d'euros en 3 mois. Arrêt de production, pénalité, perte de clients. Coût de l'analyse de double matérialité pour une entreprise de cette taille, environ 50 000 euros. Coût de l'inaction, 120 millions. Ratio 1 sur 2400. Alors, la double matérialité, c'est aussi un outil de décision. Elle va révéler les risques cachés. Dans le cas de l'entreprise dont je viens de parler, d'avoir réalisé qu'à tout au bout de la chaîne, il y avait quelqu'un qui était extrêmement dépendant d'un risque climatique. Le World Economic Forum en 2025 considère que 60% des risques financiers des entreprises sont liés à des enjeux ESG. Pourtant, seulement 20% selon notre rapport des dirigeants l'intègrent dans leur stratégie. La double matérialité, c'est une forme de scanner qui détecte les bombes à retardement. Ensuite, elle crée de la valeur si on sait l'utiliser. Les entreprises qui vont intégrer la double matérialité ou qui l'intègrent déjà dans leur pilotage ont une rentabilité supérieure de 10 à 15% selon une étude de McKinsey en 2024. Elles ont un accès facilité au financement. Les banques accordent des taux préférentiels aux entreprises dotées d'une stratégie ESG robuste. Un avantage concurrentiel qui va permettre d'agir à moindre coût face à une crise potentielle dans l'avenir. Face aux concurrents qui réagiront seulement quand ils seront face au mur, avec au mieux des coûts élevés, au pire, la mise de la clé sous la porte. La double matérialité, ce n'est pas un coût, c'est un investissement avec un ROI prouvé. Enfin, elle anticipe les réglementations et évite les sanctions. C'est une assurance contre les risques, et en particulier les risques réglementaires. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour convaincre un dirigeant, pour en revenir à la question? Il ne faut pas falloir lui parler de contraintes, mais il va lui falloir lui parler de leviers concrets. Exemple, votre fournisseur clé est en zone inondable? Eh bien, identifiez le risque et le couvrir. Vos clients vous demandent des preuves d'impact social? On leur donne, on gagne des parts de marché. Vos actionnaires veulent une croissance durable? On leur montre comment y parvenir.
Votre pétrole vient d'Iran?
Absolument. On est en train de vivre toutes ces questions-là. Tu as tout à fait raison, Bettina. Alors, face à un chef d'entreprise, on peut lui dire, vous avez le choix. Vous attendez que la crise arrive et vous la subissez. Vous anticipez avec la double matérialité et vous la maîtrisez. La différence, c'est entre un coût à court terme, à moyen terme et un avantage concurrentiel.
J'aimerais revenir sur la CSRD dont on a parlé. Nous avons désormais les premiers retours concrets de mise en œuvre. Sylvie Bénard, pouvez-vous nous dire ce qu'ils nous apprennent et observe-t-on déjà des effets de transformation?
KPMG a fait une étude sur le sujet et il montre que les 3 sujets majeurs qui sont adressés par les entreprises, c'est l'égalité de traitement pour 96% des organisations, l'atténuation du changement climatique pour 92% et la lutte contre la corruption pour 84%. Un autre des résultats extrêmement importants, c'est la mobilisation interne entre direction financière et RSE. Aujourd'hui, c'est seulement 45% des projets CSRD qui sont pilotés par les équipes RSE seules. Le point de blocage, c'est la collecte des données, en particulier sur la chaîne de valeur. Bettina l'a dit, peut-être qu'il y avait effectivement trop de données demandées et pour certaines entreprises, des données non pertinentes. Il faut vraiment travailler sur les données qui sont pertinentes pour le pilotage de l'entreprise. Il y a la question de la fiabilité des données des fournisseurs, puisqu'il faut avoir soit des fournisseurs déjà formés au recueil de données, soit aidés à la formation de ces fournisseurs, afin que les données qu'ils vous envoient soient bonnes, parce que ne pas oublier que derrière, vous allez piloter votre stratégie. Alors, sauf cas exceptionnel, les entreprises n'ont pas vraiment découvert de nouveaux impacts ni de nouveaux risques, mais ils ont pris conscience du manque de dispositifs pour les gérer. Alors, pour une entreprise, quelles recommandations peut-on faire? Commencez petit. Un projet pilote, par exemple, automatiser la collecte des données sur les gaz à effet de serre. Mesurer l'impact, exemple, évaluer l'impact carbone grâce au BGES, bilan des émissions de gaz à effet de serre, et puis surtout former les équipes afin qu'elles comprennent les limites de l'intelligence artificielle et qu'elles mettent leur intelligence humaine sur cette intelligence artificielle.
J'aimerais revenir sur la simplification et terminer cette partie d'échange avec vous, Sylvie, puisque le rapport insiste aussi sur la nécessité d'adapter les outils aux réalités des entreprises, notamment des PME. Bettina, vous l'évoquez. Mais comment simplifier sans vider le reporting de sa fonction transformative, selon vous?
Alors, la simplification des outils pour les PME doit répondre à trois impératifs. Ça doit être accessible, ça doit être progressif et ça doit préserver la valeur transformative. Accessibilité, c'est avoir des outils qui vont être adaptés aux contraintes des PME-PMI. Alors, il y a des solutions possibles. Le référentiel sectoriel dont nous parlons dans notre rapport. Par exemple, des guides métiers qui peuvent être faits par les fédérations professionnelles. Des outils numériques low cost. Des plateformes open source, des templates Excel qui vont permettre d'être utilisés directement. Un accompagnement ciblé, des webinaires, des ateliers en région. Et surtout à noter, et là aussi vous le trouverez dans notre rapport, le portail RSE qui est mis à disposition des PME et PMI par le gouvernement, qui est extrêmement pédagogique et que toute PME et PMI peut s'approprier. Deuxièmement, la progressivité, c'est avoir une montée en puissance qui va être adaptée. Première étape, un diagnostic simplifié. Un exemple, une auto-évaluation sur 5, 10 indicateurs clés. Deuxième étape, intégrer la double matérialité, mais en faisant simple, matrice, risque, impact. Troisième, on en arrive au pilotage stratégique et faire tout cela en lien avec la stratégie financière. Et pour faire cela, la norme VSME dont Bettina a parlé tout à l'heure va proposer une norme pédagogique destinée aux PME non cotées. Et enfin, préservation de la fonction transformative. Il faut pas sacrifier la double matérialité, il faut adapter le langage. Plutôt que de dire « analysez votre matérialité d'impact », dites « quels sont vos trois impacts majeurs ?» Simplifier les outils, faire une matrice visuelle au lieu de tableau Excel extrêmement complexe. Ensuite, il va falloir lier le reporting à l'action. Et je suis sûre que d'ici 2 ou 3 ans, les PME qui vont avoir adopté ces outils simplifiés seront celles qui auront pris de l'avance face aux autres qui seront nécessairement en retard et à risque.
Merci Sylvie Bénin. Ce qu'on voit bien avec vous, c'est que le reporting n'est plus seulement un sujet de conformité ou de communication et qu'il touche désormais la stratégie même des entreprises. Et c'est ce qui explique aussi très certainement les tensions qu'il suscite aujourd'hui. Pour avancer, j'aimerais vous faire réagir toutes les deux ensemble sur les arbitrages stratégiques qui traversent aujourd'hui les entreprises et les organisations. Pour commencer, je m'adresse à vous, Sylvie Vénard. Comment peut-on maintenir une trajectoire de transformation quand le contexte politique et géopolitique brouille les signaux?
Je pense que ce brouillard est temporaire. La science climatique, elle ne change pas. Plus 1,5 degré, c'est dès 2030 selon le GIEC. Et semble-t-il, nous sommes en France à déjà 1,7. Les attentes des parties prenantes, elles sont toujours là. Les investisseurs veulent des données ESG. Je le redis, particulièrement pour des questions de risque. Beaucoup de clients, en particulier dans le B2B, choisissent des marques qui vont être engagées, qui vont avoir des données. Les salariés veulent du sens et il y a de plus en plus de condamnations d'entreprises qui ne respectent pas les droits humains, les droits du travail ou font du greenwashing. Donc, je dirais que le vrai risque, c'est pas l'instabilité politique, c'est l'immobilisme des entreprises.
Bettina, vous partagez cette lecture?
Oui, tout à fait. Alors, Sylvie a prononcé un mot extrêmement important, c'est contrainte. Vous voyez bien que l'espèce d'ambiance en ce moment, c'est pas de contrainte. Et qui dit contrainte, dit sanction. Et là, vous avez deux formes de contrôle ou de sanction. Premièrement, en France, On a fondé une haute autorité qui s'appelle la H2A, qui ne, alors la H2A c'est la haute autorité de l'audit. Et en fait, il faut bien être clair que cette autorité ne sanctionne pas les entreprises, mais l'autorité sanctionne les gens qui contrôlent mal les entreprises, c'est-à-dire les commissaires aux comptes. Alors, elle existe depuis très longtemps sous une autre appellation pour si vous voulez, le contrôle financier, mais aujourd'hui, elle va exister également pour le contrôle extra-financier. Et ça, c'est une vraie révolution. Deuxièmement, il y a le risque judiciaire, et Sylvie l'a aussi dit, je dirais national et international. Alors là, il y a une nouveauté qui vient de sortir depuis août dernier, c'est l'avis, pas l'arrêt, hein, l'avis de la Cour internationale de justice, qui a confirmé, et c'est très très important, que l'action climatique constitue, je cite, « une obligation juridique contraignante en droit international et non un choix politique discrétionnaire ». Et l'accent mis par la Cour sur l'intégration systémique place les obligations climatiques et le droit des investisseurs sur le même plan d'égalité juridique que d'autres contraintes. Et tout récemment, l'ONU vient de voter ce qu'on appelle l'opérationnalisation de cet avis. Donc, si vous voulez, l'avis qui était finalement un simple avis est devenu une résolution de l'ONU. Et ça, c'est un champ énorme par rapport aux droits des entreprises pour deux raisons. Premièrement, il y a le mot contrainte dedans. Et deuxièmement, l'avis s'adresse évidemment avant tout aux États. Mais il s'adresse aussi aux entreprises et les entreprises sont nommément citées dans l'avis. Ça, c'est une petite révolution qui d'ailleurs a été saluée comme telle par la communauté juridique et qui est, je crois, très porteuse de changements et qui surtout va donner un socle juridique à toutes les plaintes qui se fondent sur l'ensemble des conventions environnementales, pas simplement d'ailleurs climatiques, mais dans l'ensemble des conventions environnementales.
L'entreprise durable est aujourd'hui était un choix stratégique. Est-ce que c'est devenu une nécessité ? Question pour toutes les deux. Et qu'est-ce qu'on dit à un dirigeant qui hésite encore ou tout simplement qui ralentit ?
Il y a trois forces qui rendent la durabilité inévitable. Et aucune entreprise ne pourra les ignorer indéfiniment. La première, nous l'avons vu tout à l'heure, la pression des parties prenantes, les clients, les investisseurs, les salariés. La seconde, les risques économiques et réglementaires. Les catastrophes naturelles liées aux risques climatiques ont coûté 280 milliards de dollars aux entreprises selon Swiss Re. Le CDP indique qu'une entreprise sur quatre a subi une perturbation majeure liée au climat. Donc, le pas agir, c'est prendre le risque de tout perdre. Et enfin, ça a été rementionné par Bettina tout à l'heure, le risque réputationnel avec des clients qui vont boycotter des entreprises accusées de greenwashing, sans compter les attaques médiatiques et dans le B2B, la perte potentielle d'un client important. La durabilité, ce n'est pas un coût, c'est une assurance contre des risques financiers à des coûts extrêmement élevés. Et la troisième force, ce sont des opportunités économiques. La réduction des coûts, utiliser moins d'énergie, faire moins de gâchis de matières premières, créer moins de déchets, eh ben ça coûte moins cher. Enfin, l'innovation et la différenciation. Les entreprises durables sont 40% plus innovantes que les autres selon le BCG en 2024.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Sylvie. Le mot clé, ça me paraît être la stratégie. Les entreprises sont aujourd'hui très demandeuses d'exercices de prospective, alors qu'avant, c'était plutôt l'État, je veux dire, qui avait une prospective, le plan, etc. Donc, les prospectivistes travaillent, et là, les données dont nous avons parlé sont absolument indispensables, parce que on ne peut pas proposer des prospectives et encore moins proposer des solutions stratégiques si on n'a pas de données. Je voudrais donner un exemple. Alors, je ne vais pas faire de la publicité pour une entreprise parmi d'autres, mais ça m'a quand même beaucoup frappé. Veolia a été assez en avance dans toutes ses affaires et a en particulier décliné le concept de performance durable. Aujourd'hui, son rapport annuel parle de la sécurité écologique. Et ça, j'ai trouvé quand même que c'était tout à fait révolutionnaire. Et en fait, Veolia a renversé le concept et a dit que, à partir des risques, il fallait construire une sécurité. Et évidemment, ils intègrent ce qu'on appelle la performance durable chez eux, c'est-à-dire nous, ce qu'on a appelé le reporting extra-financier, hein, avec toutes sortes de concepts assez fins qu'ils ont définis pour leurs propres activités. Et ils en font un besoin de sécurité écologique. Et moi, j'ai envie d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'à partir de la sécurité écologique, vous avez la construction de ce qu'on appelle dans les sphères publiques un ordre public, mais de ce qu'on peut très bien appeler l'ordre public et privé écologique.
Parfait. Le rapport insiste aussi sur les enjeux de gouvernance et de parties prenantes. Vous en avez toutes les deux déjà beaucoup parlé. Bettina Laville.
Il y a quand même un grand débat aujourd'hui dans les entreprises. C'est est-ce qu'on fait... avant, il y avait un comité de parties prenantes qui était auprès des directions de développement durable, etc. Alors, il y a certaines entreprises qui font un comité de parties prenantes auprès du COMEX, mais sans les membres du COMEX. Il y a d'autres entreprises qui font des comités de parties prenantes présidés par un membre du COMEX, avec d'autres membres du COMEX et les parties prenantes. Donc là, finalement, il y a trois modèles aujourd'hui. Moi, je suis pour un modèle près du COMEX parce que de plus en plus, j'espère qu'on vous l'a prouvé, en tout cas, décisions vont être prises par les dirigeants par rapport aux demandes des investisseurs et aux risques. Donc, c'est évidemment une question de direction d'entreprise. On a un peu de mal à intégrer tout le discours qu'on vient de faire dans des PME qui se sentent en ce moment situation de précarité. C'est d'ailleurs pourquoi, si vous voulez, il faut enlever absolument, je dirais, éradiquer l'idée que précarité et RSE vont ensemble. Comme l'a dit très bien Sylvie plusieurs fois, c'est le contraire.
Oui, si je peux rebondir sur ce que vient de dire Bettina, et je suis 150% d'accord, ce qu'il faut faire, c'est une discussion vraie entre les gens qui prennent les décisions dans l'entreprise et des parties prenantes importantes pour l'entreprise. Mais là aussi, Bettina l'a dit, ça demande de la formation. Ça demande de la compréhension du sujet. Et donc, toute la question de la formation à la fois des dirigeants d'entreprise, mais aussi des porte-parole de parties prenantes, et je me permettrai même de dire, et des politiques, est absolument indispensable. Il y a un manque de culture de la science écologique, je veux dire, de la science climatique, de la science de la biodiversité, qui est absolument hallucinant. Et donc, il faut faire cette première étape de compréhension des sujets, et ensuite arriver à avoir ce débat entre les gens qui prennent les décisions et les gens qui vont représenter des demandes venant de l'extérieur de l'entreprise.
Justement, pour prolonger votre point, est-ce que nous ne sommes pas encore et toujours en train d'environnementaliser la stratégie ? Bettina, vous parliez de stratégie, alors qu'il faudrait en réalité stratégiser l'environnement. Et est-ce que, Bettina, c'est le sens un tout petit peu de ce que vous évoquiez tout à l'heure ?
Simplement, ce qu'on a essayé de vous prouver, c'est pour reprendre votre expression stratégiser l'environnement, ou bien comme dit Hubert Védrine, qui d'ailleurs l'a volé à Edgar Morin, écologiser le monde, vous voyez, je veux dire, c'est un petit peu ça. Eh bien, là où vous avez raison, c'est que c'est global, c'est-à-dire que maintenant, vous ne pouvez pas traiter une inondation ou la destruction d'un littoral, ou bien par exemple le fait que plus il fait chaud, moins les eaux d'une centrale nucléaire refroidissent, ce qui est quand même pas un petit risque, hein. Je veux dire, vous ne pouvez pas traiter ça comme phénomène environnemental, vous devez traiter ça comme phénomène sociétal, parce que ça engage ce que vient de dire d'ailleurs Sylvie, c'est-à-dire l'environnemental, le social, bien entendu l'économique, bien entendu le politique, donc l'ensemble de la société.
Alors, pour avancer encore, votre rapport montre très clairement que le reporting transforme déjà la manière de voir l'entreprise en rendant visibles des impacts qui restaient jusque-là invisibles. Mais il dit aussi quelque chose d'important. Le reporting à lui seul ne suffit peut-être plus pour piloter la transformation et qu'il faut sans doute aller vers des formes de comptabilité plus intégrées. Sylvie Bénard, est-ce qu'on commence aujourd'hui à dépasser le simple reporting ? Autrement dit, on voit mieux les impacts, mais est-ce qu'on décide déjà différemment ?
Alors, un peu, mais on observe encore un fort décalage entre maturité du reporting et pilotage. Le reporting a progressé, on l'a dit. La plupart de ceux qui ont adopté la CSRD continue. La double matérialité est mieux comprise, les données sont plus fiables. Mais le pilotage reste en retard. Seulement 20% des entreprises utilisent le reporting pour piloter leur stratégie selon Ernst & Young en 2025. 70% des données ESG restent non exploitées, 70% selon des lois toujours en 2025. La comptabilité intégrée et la méthode CARE permet de passer à se décider différemment en intégrant les capitaux naturels, les capitaux humains et les capitaux financiers qui sont déjà dans les comptes. Et ainsi, on va pouvoir piloter sa performance globale, par exemple, en faisant le lien entre impact ESG et rentabilité.
La méthode CARE, qui, je le rappelle, est développée et portée par le CERCES. Je vous propose d'écouter à ce sujet Hervé Bégaud.
CARE essaye de considérer, bien sûr, que la finance a toute sa place, mais qu'il y a aussi des aspects environnementaux et sociaux qu'il faut représenter dans les comptes. Pour montrer comment le modèle d'affaires est soutenable et comment l'entreprise peut faire pour continuer à exister, faire une performance durable, tout en portant le moins possible atteinte à ces écosystèmes naturels et humains.
Sylvie Bénard, comment regardez-vous ce type d'approche ? Est-ce que vous y voyez une prolongation naturelle des dynamiques qui sont décrites dans le rapport ou un changement plus profond encore dans la manière de définir la performance ?
Tout à fait. La prolongation naturelle du rapport avec le reporting comme levier de transformation, CARE intègre les données de durabilité dans la comptabilité, là où le reporting les mesure simplement. La double matérialité comme boussole, ainsi on va identifier et quantifier les impacts de la double matérialité et les intégrer dans les décisions financières. Enfin, l'intégration ESG dans la stratégie, CARE l'accélère en rendant les enjeux ESG tangibles et actionnables. Mais c'est aussi une révolution dans la définition de la performance globale. CARE intègre les capitaux naturels, humains et financiers, là où la comptabilité traditionnelle n'intègre que les financiers. La performance prospective, on peut ainsi anticiper les risques et les opportunités futures, là où la comptabilité traditionnelle ne regarde que vers le passé. Et enfin, la performance inclusive, en créant de la valeur pour tous, l'entreprise, la société, l'humanité, la planète, là où l'ancienne vision opposait profit et durabilité.
Au fond, avec des approches comme CARE, on ne parle plus seulement de produire de la donnée, on commence à reconfigurer les équilibres économiques à partir de cette donnée, à reterritorialiser l'économie. Est-ce que, selon vous, Sylvie Bénard, elle est là la véritable bascule vers une nouvelle vision du monde, comme vous aimez à le dire souvent ?
Alors, oui, c'est effectivement une vision du monde, mais peut-être qu'elle n'est pas nouvelle. C'est peut-être retour à notre vision européenne qui va être historiquement fondée sur l'agriculture, la préservation de notre capital naturel qui nous nourrit, qui est le sol, et la connaissance du fait que nous avons un territoire limité sur lequel nous devons survivre tous ensemble. Face à la vision américaine qui va être basée sur le flux et la prédation d'autres territoires si le leur est insuffisant, ce que nous sommes en train de vivre. Donc, si CARE, c'est effectivement une forme de bascule, elle permet de passer de la donnée désincarnée à la donnée intégrée dans les décisions, d'une logique de reporting à une logique de reconfiguration des équilibres économiques et d'une vision financière à une vision holistique de la performance.
Bettina, sur la dimension vision du monde et je pense aussi au principe habitabilité qui est développé en ce moment par Laurent Néret et son compère Morisot.
Alors, d'abord, il faut avoir en tête que les normes comptables classiques au niveau financier ont mis un siècle à s'imposer et ont été au début, il y a donc le siècle dernier, même d'ailleurs à la fin du 19e, enfin beaucoup au début du 20e, aussi combattu par certains milieux économiques, je dis bien certains milieux économiques, que l'extra-financier et donc les normes extra-financières le sont. Donc ça, c'est extrêmement important parce que nous sommes tout à fait au début de l'histoire. Mais sauf dans certaines chaînes particulières de télévision, comme je n'entends pas que les choses vont s'améliorer de manière spectaculaire sur l'environnement, eh bien, évidemment, les normes extra-financières vont augmenter. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, alors, l'habitabilité, Corinne Lepage, dans une déclaration à laquelle j'ai participé, qui s'appelait la Déclaration des droits, la DDHU, la Déclaration des droits de l'humanité, avait totalement déjà, porté ce concept. Mais oui, on pourrait d'ailleurs très bien dire que l'extra-financier, c'est la comptabilité de l'habitabilité. C'est un peu difficile à dire, donc je ne sais pas si ça franchira le seuil de nos dictions, mais finalement, c'est ça, c'est tout simplement ça.
Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine discussion avec les intéressés, néanmoins. Merci beaucoup pour cette ouverture. Pour terminer, si vous deviez retenir quelques recommandations clés issues de votre rapport, Sylvie Bettina, pour les entreprises et pour les professionnels qui nous écoutent, quelles seraient-elles ces recommandations, Sylvie, par exemple?
Alors, je vais être extrêmement pragmatique. Clé numéro un, mesurez ce qui compte. Commencez par identifier vos 3 à 5 impacts qui vont être les plus importants et agissez dessus. Clé numéro 2. Intégrer la durabilité dans votre ADN. Utilisez des outils comme CARE pour intégrer les enjeux ESG dans vos décisions. Troisièmement, embarquez votre équipage, impliquez vos salariés, vos fournisseurs, vos clients et co-construisez des solutions. Clé numéro 4, passez à l'action, même petit. Et petit à petit, commencez par un projet et grandissez progressivement. Et enfin, anticipez l'avenir, anticipez les risques, climat, réglementation, inondation, prix du pétrole, etc., etc. Et saisissez les opportunités. Nouveaux marchés, innovation, faire différemment. Il n'y a plus qu'à y aller.
Alors moi, j'ai continué d'y aller. Il y a une recommandation qui dit clairement qu'il faut utiliser la double matérialité comme une boussole stratégique. Et ça, on aime bien toutes les deux le terme de boussole parce que, en fait, la boussole, c'est ce qui permet d'aller dans le bon sens quand on construit une stratégie. Considérer la donnée comme un actif, et ça, c'est me paraît tout à fait important parce que aujourd'hui, la donnée est un actif dans une société. Former des dirigeants, ça, on en a parlé. Éviter la surproduction d'informations dans les recommandations. Il y a une recommandation que moi, j'aime beaucoup, qui d'ailleurs correspond tout à fait à la question que vous nous avez posée sur l'habitabilité. On a dit « situer l'entreprise dans notre écosystème vivant ». Alors, autant je crois que nous sommes toutes les deux un peu sceptiques sur le mot « vivant » employé partout. Parce que de toute façon, tout est vivant. Donc, si vous voulez, c'est une manière de noyer le poisson, si j'ose dire. Et tout ce qui, finalement, est un peu une nouvelle mode du reporting sur le vivant. Autant, situer l'entreprise dans l'écosystème vivant, ça me paraît tout à fait important. Et finalement... Alors, il y a l'habitabilité, mais ça correspond à la question que se posait dans un de ses derniers livres, Bruno Latour, devant l'importance des défis que nous avons à surmonter, Où atterrir ? Et le titre de ce livre, Où atterrir, nous réveille. Parce que pour une entreprise, c'est fondamental. Alors, soyons un peu vulgaires, c'est fondamental quand il y a inondation, etc. Enfin, au niveau, alors là, de la matérialité. Mais c'est aussi fondamental au niveau de la stratégie, c'est-à-dire dans ce monde d'écueil, où atterrir positivement.
Merci beaucoup Bettina, merci beaucoup Sylvie. Nous arrivons au terme de cet échange passionnant qui montre très clairement que nous sommes effectivement à un moment charnière. Les cadres évoluent, les débats s'intensifient, les tensions politiques et géopolitiques rondent le chemin plus incertain. Mais en même temps, les outils se structurent, les entreprises avancent et les transformations sont déjà engagées. Au fond, la ligne de fracture n'est peut-être plus entre ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas, mais plutôt entre ceux qui attendent que le cadre se stabilise et ceux qui décident d'agir malgré l'incertitude. Parce que aujourd'hui, on aura compris que le véritable enjeu est sans doute là, transformer l'incertitude en capacité d'action. Alors avant de conclure, j'aimerais vous redonner la parole à toutes les deux. Bettina Laville, on va commencer par vous. Quel message essentiel souhaiteriez-vous que nos auditeurs retiennent aujourd'hui de cet échange ?
Alors, par rapport aux entreprises, je crois que ce qui est très important, c'est le lien entre tout ce qu'on vient de dire sur le reporting intégré, etc., et la transformation des modèles d'affaires. Sylvie a cité le mot une fois, et je voudrais vraiment y insister, peut-être d'ailleurs en ne parlant pas simplement de modèles d'affaires, mais de modèles économiques privés, peut-être, hein, de manière plus large. Je veux dire, il faut qu'elles soient compatibles pour sauvegarder une certaine richesse nationale avec l'économie du monde. Mais l'économie du monde va vers, en tout cas, un certain illibéralisme, comme on dit, et des excès. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'accords entre les entreprises, le monde syndical des entreprises, le MEDEF de temps en temps, mais en tout cas les grandes fédérations et beaucoup de mouvements patronaux comme le mouvement Impact, etc., bien entendu l'économie sociale et solidaire, etc., sur le fait que cet illibéralisme doit être combattu. Et ça vient des entreprises elles-mêmes parce qu'elles se rendent bien compte que il y a pas de monde économique sans règles et que les règles explosent complètement, si vous voulez. Il y a notre monde global. Mais il y a une progression qui se fait dans cette pensée et pour cela, il faut absolument que les modèles d'affaires changent. Et une des voies de changement très importante, c'est de mesurer ce qu'on détruit et que ce qu'on peut éviter de détruire et ce qu'on peut continuer de construire. Et finalement, c'est ça, un modèle d'affaires. Le comité 21, je vais faire un petit peu de publicité, a fait un rapport très long sur les modèles globaux qui s'appelle « Cap sur de nouveaux modèles possibles dans un monde tourmenté ». Enfin, à une virgule près, c'est le titre. Et on pose ce problème-là, c'est-à-dire qu'on fait la liste de tous les modèles existants et on essaye d'en proposer un qui, d'ailleurs, pour nous, est un modèle d'économie de fonctionnalité. Alors, vous avez compris que nous étions finalement des militantes raisonnables et rationnelles, j'espère, de l'extra-financier. Et nous avons dit, et moi je continue de l'affirmer, que les entreprises vont continuer. Il faut quand même faire attention, parce qu'il y a quand même un gros mouvement de lobby au niveau européen qui essaye de retarder le plus possible cette transformation, et comme je le disais, cette transformation de nouveaux modèles. Et moi je dirais qu'il faut faire très attention aux actes délégués de la directive Omnibus, en particulier d'ailleurs ceux qui sont en ce moment en consultation. Je citerai quand même les ESRS qui proposent de réduire de 61% le nombre de données obligatoires dans les rapports. Et ça, si vous voulez, 61%, c'est trop. Il y a autre chose qui m'inquiète aussi quand même, c'est que le deuxième projet d'acte délégué, en fait, sur la norme volontaire hein, de reporting de durabilité, vise les entreprises de moins de salariés et introduit ce qu'on appelle une value chain cap. Ça veut dire quoi ? Ça signifie que les entreprises soumises à la CSRD ne pourront pas exiger de leurs sous-traitants et partenaires employant moins de 1000 personnes de fournir des informations allant au-delà de celles qualifié de nécessaire, ce qui ne veut strictement rien dire pour la norme. Et ça, c'est une vraie régression.
Merci infiniment, Bettina, et nous aurons à cœur de prendre connaissance du rapport du comité 21. Sylvie Bénat ?
Alors, je vais rester avec ma casquette pragmatique.
Oui, quel conseil clé emporter ?
et je vais me retourner vers nos auditrices et nos auditeurs et leur dire, dans tout ce que vous avez entendu, c'est quoi les deux, trois sujet de réflexion, les deux, trois projets, les deux, trois outils que vous retenez, pas plus, hein, deux, trois, et que vous pouvez mettre en place dès demain quand vous êtes dans votre entreprise. Et c'est ainsi que vous allez faire ou accentuer votre élan vers la bascule.
Merci beaucoup Sylvie. Votre rapport le montre, le reporting est un point de départ, mais il appelle aussi à aller plus loin, vers des formes de pilotage plus intégrées. Et c'est précisément dans cet espace que des approches comme CARE et le CERCES prennent tout leur sens pour passer de la mesure à la décision. Alors dans ce contexte, tenir le cap n'est plus seulement une posture, c'est un véritable choix stratégique et vraisemblablement, vous l'évoquez Sylvie, un avantage compétitif. Merci infiniment Bettina Laville, merci beaucoup Sylvie Bénat, merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très bientôt.